On vous parle d'environnement avec la cérémonie des Tortues d'Or, un rapport sur le tourisme et une vaste opération de la gendarmerie. Et puis on revient sur cette polémique à la Marina Taïna. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On parle de tortues pour commencer.
Et de tortues d'or pour la 19e fois. Les prix ont été remis aux communes, aux entreprises, aux établissements et hôtels ayant le mieux trié l'année dernière. Presque une tradition donc pour le syndicat qui regroupe toutes les communes de Tahiti et de Moorea, l'exception de Faa. Des communes qui sont classées suivant leur taux de captage des déchets recyclables, que ce soit dans les bacs verts et les bornes à verre. Et à ce jeu-là, Aroué semble imbattable. 70,7% des déchets recyclés sont captés. 54 kilos collectés par habitant et une nouvelle tortue d'or, la sixième devant les communes de Punavia et Mahina. Voilà donc pour le trophée le plus convoité. Ça n'est pas le seul de la cérémonie qui a eu lieu hier, c'est ce que rappelle le directeur du syndicat Benoît Lerle.
On a les îles éloignées avec la commune de Rimatara qui est devenue exemplaire, qui fait un travail hyper qualitatif où tous les conseils qu'on a donnés ont été appliqués. Ensuite, on récompense la meilleure entreprise. Cette année, c'est une société du groupe Van qui s'appelle Sopal qui est exemplaire parce qu'ils ont mis en place des ceintures pour palettes qui permet d'éliminer l'usage du plastique à usage unique. Donc, ils ont des produits réutilisables. Ensuite, on a récompensé les établissements hôteliers, les établissements scolaires et les manifestations publiques qui jouent le jeu du tri au quotidien. Et donc, c'est ce que l'on voulait mettre en avant.
Voilà, et côté établissement scolaire, justement, c'est le lycée polyvalent de Tairapunui qui repart avec de l'or devant le diadème Erapoto. Le Brando l'emporte chez les hôtels devant l'Interconti Tahiti et le Four Seasons de Bora. Quant aux événements, c'est bien le roi Heiva qui décroche la tortue d'or. Autant de catégories dans lesquelles il ne s'agit pas de ramasser la plus grande quantité de déchets à recycler, mais plutôt d'avoir des projets de qualité.
On demande à ces personnes de mettre en avant leur prise d'initiative, leurs idées, qu'ils sont allés chercher à droite à gauche, peu importe, mais qu'ils ont réussi à mettre en œuvre, et c'est pas juste une semaine environnementale ou une journée environnementale. Nous, on essaye de juger les gens sur 12 mois, quelque chose de pérenne, et c'est ça qui nous fait plaisir. Et aujourd'hui, c'est vrai que certains, ça en devient leur objectif annuel d'être tortue, d'être sur le podium, puis d'aller taper la tortue d'or et après de la garder. Voilà.
Voilà Benoît Lerle, le directeur de Fenouama, qui précise que le syndicat a relevé en 2023 près de 5000 tonnes de déchets dans les bacs verts. Un chiffre en baisse, mais c'est aussi le cas dans les bacs gris, ce qui est une bonne nouvelle. Pour les spécialistes, aucun doute, c'est la crise de l'inflation qui a diminué la taille des chariots et donc des poubelles.
On reste dans le développement durable, mais côté tourisme.
Oui, avec ce rapport qui a été diffusé par le Conseil mondial du tourisme durable, un organisme lié aux Nations Unies que la Polynésie avait rejoint fin 2022 et qui a mené une mission d'évaluation l'année suivante au Fenua. Un état des lieux en quelque sorte sur la gestion de la destination, la durabilité socio-économique, culturelle ou environnementale. L'idée est d'identifier les défis que les autorités locales ont à surmonter pour préserver le pays au long terme des conséquences néfastes du tourisme. Et le fait est que ces défis sont nombreux, Charles Irénée.
Et oui, Valdemar, le premier point sur lequel appuie le Conseil, c'est la gestion de l'espace. Le gros des touristes du Fenua se rend sur les mêmes îles, sur les mêmes sites, avec forcément un plus fort impact que s'ils étaient bien répartis. Sur ce point, le gouvernement a déjà fixé le cap en encourageant le développement de la petite et la moyenne hôtellerie dans les îles pas encore très fréquentées. Mais il y a d'autres problèmes importants pour l'organisme onusien, la dépendance aux énergies fossiles notamment, particulièrement marquée dans les archipels éloignés, le manque de développement des transports publics aussi, pourtant bien pratique pour les voyageurs, le rapport parle aussi des systèmes de gestion de déchets défaillants, au moins en dehors de Tahiti, ou encore des consommations en eau très peu régulées, Valdemar.
Des défis à relever aussi du côté culturel, puisque le Conseil mondial du tourisme durable interpelle sur l'absence de base de données centralisée sur le patrimoine qui permettrait d'informer les touristes, mais aussi de mieux former les guides et prestataires. Tahiti Tourisme assure que beaucoup de pistes d'amélioration sont traitées dans la feuille de route pour 2027. Une feuille de route qui avait toutefois été préparée sous l'ancienne mandature et qui prévoyait de limiter le nombre de touristes pour limiter leur impact. Le gouvernement Brotherson, lui, vise 600 000 visiteurs par an d'ici 2030 contre 260 000 aujourd'hui.
Environnement toujours, la gendarmerie a fait place nette.
Oui, place nette, c'est le nom de cette opération durant laquelle les gendarmes ont ciblé les délinquants environnementaux la semaine dernière. Ils ont notamment enquêté sur une série de dépôts illégaux de déchets, de sites d'abandon de voitures, sur d'anciennes fermes perlières non dépolluées et même sur un cas d'incinération et d'enfouissement illégal de déchets médicaux derrière un dispensaire des Tuamotu. Les militaires ont également contrôlé près de 500 véhicules pour nuisances sonores. Plusieurs épaves de navires ont également été contrôlées à Tahiti, de même que des bateaux bateau au mouillage à Moorea. S'ajoutent de multiples autres contrôles, une opération sur tous les fronts sur laquelle on revient avec le Haussaire Eric Spitz.
On ne peut pas gâcher ce territoire qui vit essentiellement du tourisme en portant atteinte à notre environnement. Il s'agit donc, via des opérations de police administrative et de police judiciaire, non plus de sensibiliser les gens au risque d'atteinte à l'environnement, mais bien de les sanctionner. Ça s'est traduit par un certain nombre de gardes à vue et de procédures judiciaires qui se prolongeront dans les prochaines semaines et que la procureure pourra vous détailler.
Et des procédures, il y en a, et pas seulement les 99 contraventions établies, la dizaine de véhicules immobilisés, les 4,2 millions de francs saisis, la soixantaine de délits déjà constatés, avec 66 mises en cause, dont 5 gardes à vue dans une affaire de vente de viande de tortue. Au total, 47 nouvelles enquêtes ont été initiées et 11 autres ont été poursuivies, selon la procureure Solène Bellawar. Du travail pour la justice donc, mais aussi encore pour les gendarmes, car d'après le colonel Grégoire de Maison, Place Nette n'était pas une opération isolée. Et les opérations de lutte contre les infractions environnementales ont vocation à durer bien au-delà des JO de juillet et août prochains. Ce qui n'est pas pour déplaire au pays qui a participé à cette opération via la DEPAM, la DIREN et le port autonome. La vice-présidente en charge de l'environnement, Eliane Tevahitoua, adhère parfaitement à cette logique répressive.
Il arrive un moment où les spots publicitaires, les annonces de prévention qui sont faites, ça ne suffit plus. Et donc on est obligé d'arriver au stade d'appliquer les sanctions qui sont prévues déjà dans notre législation, mais qui n'ont jamais été mises en œuvre. Parce qu'on a toujours été un peu indulgents et on a toujours cru que peut-être les gens vont changer leur comportement, mais on se rend bien compte que ce n'est pas le cas.
Et au-delà de l'environnement, d'autres opérations anti-délinquance seront menées, notamment dans la perspective des Jeux Olympiques, dans les semaines et mois à venir.
Et lors de cette opération Place Nette, les gendarmes ont saisi des fûts d'hydrocarbures à bord d'une épave.
Oui, la brigade nautique et l'OCLAESP, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, ont mené des investigations sur l'épave du Corsaire. Des investigations en profondeur, puisque le navire, ancienne navette d'Aremiti, avait coulé en octobre 2022. Le Corsaire est toujours posé un peu plus de 30 mètres de fond, tout près du pont de Motuhuta, entouré de barrières de surface anti-pollution, puisque plusieurs fuites d'hydrocarbures avaient été constatées. Elles avaient d'ailleurs motivé l'ouverture, voilà quelques mois, d'une enquête préliminaire pour atteinte à l'environnement. Et c'est donc dans ce cadre que sont intervenus les 5 plongeurs spécialisés dans ce genre d'opération. Les détails avec le colonel Grégoire de Maison.
Conduire une perquisition par 35 mètres de fond, ça demande une haute technicité à la fois en matière de plongée et de police judiciaire. Et donc c'est le croisement de ces différentes compétences qu'on a mis en œuvre pour conduire cette opération.
Une opération qui a porté ses fruits. 12 bidons de 20 litres et 6 fûts de 200 litres d'hydrocarbures ont été saisis et remontés à la surface par les gendarmes. Beaucoup d'autres sont toujours à bord. Des prélèvements qui doivent maintenant être analysés pour faire avancer l'enquête, comme nous l'explique la procureure.
C'est un développement important pour l'enquête parce qu'on découvre des hydrocarbures et des déchets au cours de la perquisition. Et là aussi, l'enquête n'est pas terminée puisqu'on va s'attacher à identifier maintenant les responsabilités.
Un travail qui pourrait être complexe vu l'historique du Corsaire. Le groupe de Gage en était historiquement le propriétaire, raison pour laquelle il avait été mis en demeure par le port de retirer l'épave fin 2022. Mais la société expliquait de son côté avoir vendu le navire à l'entreprise Tahiti Cruise dès 2018. Une cession qui n'a pas fait l'objet des déclarations adéquates, comme l'avait rappelé le tribunal administratif. Alors que le port a renoncé à mener les opérations de renflouement, la question des responsabilités financières est dans les mains de la Cour d'appel administrative de Paris. S'ajoute désormais celle de la responsabilité pénale des hydrocarbures stockés à bord.
La Marina Taïna augmente ses tarifs.
Et la communauté de la voile est sous le choc. La Marina Taïna n'avait pas augmenté ses tarifs depuis 2006. Le délégataire de service public qui gère cette marina pour le port autonome demandait donc la possibilité de les augmenter, que ce soit pour les bateaux amarrés à quai ou ceux amarrés sur bouée. Et ces augmentations ont été actées lors du conseil d'administration du 25 janvier dernier et elles s'appliqueront dès le 1er mars, alors que la Marina Taïna n'a pas encore diffusé l'information officielle. Les propriétaires qui vivent sur leurs bateaux sont particulièrement visés. Le tarif qui leur sera demandé est majoré de 250% pour un monocoque et de 150% pour un multicoque. Ainsi, selon les calculs de l'association des voiliers de Polynésie, le loyer demandé pour un voilier de 13 mètres passerait de 20 000 à 100 000 francs par mois. Une mesure qui s'ajoute aux limitations de stationnement à 24 ou 48 heures dans de nombreuses communes polynésiennes. Pour Arnaud Jordan, le président de l'association, le message du pays est clair.
Si on voulait, un, tuer la plaisance, deux, fabriquer des épaves parce que les gens ils ont un budget limité, au bout d'un moment, ils ne vont pas pouvoir payer l'amarrage et entretenir leur bateau. Donc, ça va être un petit peu catastrophique. Et puis, c'est un signal tout à fait délétère pour le tourisme en général, le tourisme plaisancier en particulier. Il y a vraiment un énorme mouvement de ne venez pas chez nous, partez d'ici.
En tout cas, personne ne semble en mesure de donner le nombre de voiliers habités qui seraient concernés. L'association les estime à moins d'une centaine sur toute la Polynésie. Mais elle pointe surtout deux choses. D'abord, les précédents gouvernements qui ont encouragé les longs séjours de voiliers pendant des années sans construire les infrastructures correspondantes. Ensuite, cette nouvelle tarification punit les plaisanciers qui respectent les règles, ceux qui vont en marina et payent leur amarrage, alors que rien ne semble entrepris contre les quelques délinquants qui naviguent comme bon leur semble. Du côté du gérant de la marina, on explique que même avec cette augmentation, les tarifs de Teina sont inférieurs à ceux pratiqués, par exemple à Nouméa.
On ouvre une page justice avec cette condamnation pour tentative de corruption.
6 mois ferme pour un détenu reconnu coupable d'avoir tenté de soudoyer un surveillant. Le deal était simple, en échange de cigarettes ou de gâteaux, le détenu devait garder le silence sur de supposés trafics que le surveillant aurait laissé faire en prison. Voyant que cela ne marchait pas, il avait envoyé des courriers aux instances judiciaires pour dénoncer ce surveillant sur la base de ce chantage. Après enquête interne, il s'est avéré que le surveillant en question n'avait rien à se reprocher et qu'il était la victime d'une cabale. Malgré les nombreuses questions du juge, le prévenu est resté muet à la barrière, n'apportant aucune preuve de ce qu'il avançait dans ses courriers. Seul un « je voulais me venger » est sorti de sa bouche. Âgé d'une trentaine d'années, le prévenu n'en est pas à son coup d'essai dans ses tentatives de corruption. Il y a quelques années déjà, il avait été condamné pour avoir offert de l'argent à un gendarme qui le contrôlait alors qu'il roulait sans permis. Et alors qu'il devait sortir en juillet, il va donc purger 6 mois de plus.
Et puis un autre procès hier, celui d'un jeune homme violent.
Oui, à 20 ans, il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour violence conjugale sur sa compagne de 16 ans. Ivre, il avait été interpellé en mars 2023 après que les Mouteuils soient intervenus pour une dispute conjugale, à l'issue de laquelle ils avaient trouvé la jeune fille en pleurs et portant de nombreuses traces de coups au visage. Coupable de nombreuses crises de jalousie, le prévenu a expliqué être lui aussi régulièrement tapé par sa femme, ce qu'ont confirmé les témoignages de la famille. Alors pour le procureur, ces faits ne sont pas anodins. Ce sont des violences banalisées et habituelles qui font pleinement partie de leur vie.